La Musique, une émission qui vous parle de musique classique, le lundi à 10h, en rediffusion le jeudi à 17h30. Écoutez les petites histoires des grands compositeurs.
Bonjour à toutes. Pour entamer l'année du bon pied, voici quelques airs de danse qui nous feront aussi voyager à travers les époques et les cultures d'Europe. Si le corps vous en dit, bougez, tapez du pied en cadence. Pour ouvrir ma sélection, un branle de Bourgogne dont la tradition remonte à la fin du Moyen-Âge. Le branle se danse en rond avec des pas de côté. Branle simple, deux pas à gauche, un pas à droite. Branle double, deux pas à gauche, deux pas à droite. On fait les pas plus grands vers la gauche pour assurer le déplacement de la rampe. On ajoute un balancer des bras en rythme. Rappelez-vous vos balles folk. Il y eut de nombreuses publications de telles danses à la Renaissance, avec les débuts de l'imprimerie musicale vers 1500. Tout de suite, je vous propose de réécouter ce branle interprété par Jordi Savall et son ensemble Hesperion XX.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Cécile et bonjour Fred.
Bonjour Armel, bonjour Cécile qui est toujours confinée en Belgique.
Et ouais, on espère que tu vas bien. Alors, donc au XVIIe siècle, la musique de danse est le point de rencontre et d'échange entre la musique populaire et la musique dite cultivée. Les airs populaires et les procédés d'ostinato, c'est-à-dire une basse obstinée ou une séquence rythmique répétée, donc tout cela anime et donne une énergie à la musique des compositeurs renommés. Exemple avec le compositeur Tarquinio Merula qui, dans la première moitié du XVIIe siècle, renforce cette énergie rythmique par la grande volubilité et l'aisance de ses variations. Écoutons son Ballo detto Pollicio pour ensemble de cordes. C'est vif, léger et virtuose. Un changement de rythme à la moitié de la pièce suggère un pas plus sauté. Mais déjà, sans doute, on ne danse plus sur ces musiques devenues pure musique instrumentale. Ou alors, il faut imaginer un ballet plus élaboré. Que cela ne vous empêche pas de suivre le mouvement. Alors, est-ce que cette musique vous a donné envie de tourbillonner, Fred?
De tourbillonner, de sautiller.
Oui, je peux vous assurer que Fred est en train de danser dans le studio.
Oui, tout à fait.
Alors, nous écoutions les Sonatori della Giosa Marca. Et maintenant, nous poursuivons avec une vraie musique populaire avec des cornemuses et percussions. Alors, cette musique nous vient du Portugal, dans la région de Bragance, le nord-est du Portugal, et elle a traversé les siècles. Voici Redondo, une danse pastorale qui se danse en deux lignes, face à face. Les hommes, les femmes, et on avance, on recule, et on se croise, et tout ça en tapant du pied.
Thank you.
Alors, je ne sais pas si vous, vous avez tapé des pieds, mais nous, oui.
Ah, nous, oui, fortement même. Alors maintenant, on change d'atmosphère, on change de pays. On se dirige un petit peu plus vers le nord. Dans son ouverture Nacht französischer Art, l'ouverture à la manière française, en si mineur, BWV 831, Jean-Sébastien Bach, après une majestueuse ouverture, enchaîne une série de danses avec des titres français. Ces pièces sont désormais stylisées, largement ornées. Elles gardent une vivacité rythmique due à leurs origines, mais ne sont plus destinées réellement à être dansées. Leur succession respecte cependant le plus souvent le couplage mouvement lent, mouvement plus rapide, issu du bal réel. Nous écoutons au clavecin, une occasion d'ailleurs d'apprécier cet instrument parfois méconnu ou mal aimé, Benjamin Allard qui nous propose un extrait de cette suite, les bourrées 1 et 2, dans un style très allègre. Chaque section 2 par danse est répétée et la première bourrée est reprise en da capo. Petite précision, Armelle, le da capo.
Alors, le da capo, ça veut dire que l'on, en fait, on fait une reprise, on reprend au début.
D'accord. Une musique donc avec beaucoup de répétitions, qui est issue des pratiques chorégraphiques. Ces bourrées sont suivies d'une gigue, à l'origine danse sautée rapide, ici avec des rythmes inhabituellement pointés. Une pièce brillante et facétieuse. Rien ne vous empêche de danser quand même, hein. Thank you. Faisons maintenant un bond dans le temps. Nous voici en 1913 à la création à Paris du Sacre du Printemps, un ballet d'Igor Stravinsky sur une chorégraphie de Nowinski. Orchestre quelque peu surdimensionné avec des sections de percussions développées, des rythmiques complexes, une juxtaposition brutale de blocs sonores et la première exécution se termine dans le vacarme. Il semble a posteriori que c'est surtout la chorégraphie qui suscita des remous. Les versions non dansées exécutées peu après la création reçurent un accueil plus chaleureux. Toujours est-il que ce sacre sous-titré « Tableau de la Russie païenne en deux parties » propose en quelque sorte un retour à la danse primale, archaïque et un rien sauvage. Nous écoutons le numéro 2, augure printanier ou danse des adolescentes sur un tempo guinsto, extrait du premier tableau Adoration de la Terre. Est-ce une œuvre écologique ? Repérons donc le rythme obsédant, oppressant qui sous-entend l'extrait, des flûtes puis violons, évoquant des voiles légers, virevoltants, un bouillonnement d'éclosion de renaissance à la vie. Une finale en crescendo, voire même en transe. Alors, avez-vous senti le cœur du monde qui bat et qui vous envahit ? Armelle, t'as senti, toi ?
Ah oui, on te sent très bien cette espèce de pulsation, cette énergie qui arrive de la Terre.
Nous écoutions donc le San Francisco Symphonie sous la direction de Michael Tison Thomas.
Alors, nous allons poursuivre avec un tube. Eh oui, la valse numéro 2 de Shostakovich. Vous connaissez tous, hein, merci la pub. Alors, donc la valse numéro 2 de Chostakovitch, qui est en fait la 7e des 8 mouvements de sa suite pour orchestre de variété numéro 1, opus 50B, composé en 1956 et souvent joué indépendamment de la suite. Alors, cette valse a d'abord été une musique de film pour le premier échelon de Mikhaïl Karatozov. Et donc, cette valse est intégrée à la suite, qui propose aussi une marche, une polka, une valse lyrique. Cette musique sera créée seulement en 1988 à l'Ouest. Dmitri Chostakovitch n'est jamais sorti de la Russie, où il a subi le joug de la censure soviétique. Alors, repérons dans l'introduction la rythmique de la valse en trois temps, soulignée de manière un peu burlesque par les vents graves, le thème principal ensuite joué d'abord au saxophone, le lyrisme des violons qui reprennent le thème, une partie centrale plus douce avant la reprise du début qui va en crescendo jusqu'au final plus court. Tout cela est un petit peu caricatural, certes, mais très efficace. Voilà, efficace.
Efficace, tout à fait. On avait envie de danser encore dans les studios.
Et donc, nous écoutions le National Symphony Orchestra d'Ukraine sous la direction de Théodore Cuchard.
Alors, pour conclure, Cécile nous propose une des célèbres valses de Johann Strauss, le fils, son opus 410 intitulé Frühlingsstimmen, Voix ou rêve du printemps. C'est presque d'actualité d'ailleurs. Johann Strauss II, né en 1825, son père est également musicien et chef d'orchestre, ne souhaite pas que ses enfants suivent sa voie. Est-ce par peur de la précarité de la fonction ou par jalousie? On ne sait pas. En tout cas, le jeune Johann, l'aîné des 5 enfants, recevra même le fouet pour avoir commencé à jouer du violon en cachette. Les choses s'arrangent et à sa mort en 1899, Johann II, désormais surnommé le roi de la valse, laisse plus de 500 compositions de danse, des valses, des polkas, des marches et quelques opérettes dont la chauve-souris. Une première version écrite en 1882 ou 1883 qui comporte une partie de soprano. Et vu son succès, la pièce connaîtra bientôt une version voix et piano, puis une partition pour piano solo. Cette valse est souvent interprétée aussi en version orchestre seul, comme la version que je vous fais entendre. Nous la devons au chef belge Jos van Immersel et son ensemble Anima Eterna, qui joue sur instruments d'époque. Cette Frühlingsstimmen était cette année au programme du concert du Nouvel An de l'Orchestre de Vienne.
Alors, je vous propose une lecture, une audition commentée donc de ce Frühlingsstimmen. Donc, nous avons dans cette œuvre 4 sections avec entre chaque section et en introduction 4 ou 8 mesures de transition. Et le thème principal, suivant le texte, est le réveil printanier. Donc, introduction de 8 mesures. Et voici la première section en si bémol majeur, avec le thème A. Un thème virevoltant et ondoyant, le thème le plus connu. Et voici le deuxième thème, le thème B, avec moins de notes, entraînant, léger. Le retour du thème A, le thème principal, le thème du début. Le printemps revient et réveille les sentiments. Voici la deuxième section en mi bémol majeur, avec un thème C. Le thème C prime, qui ressemble au thème C. Thank you. imitation de chants d'oiseaux, avec les flûtes que l'on entend, des trilles, des glissades, bref, une chorale d'oiseaux. Troisième section, en la bémol majeur, avec un thème E. Un thème un peu plus plaintif. C'est la nuit du printemps, il y a des rêves, l'amour qui s'inquiète, le cœur qui frappe, la lune très romantique, le rossignol et son chant désenchanté. Voilà, le rossignol, avec un thème descendant, chromatique. Ce thème plus plaintif. Rossignol. Nous sommes dans la quatrième section, en la bémol majeur, avec un thème F plus court, qui redevient jovial, tonique, la nuit s'achève, et vous allez pouvoir entendre bientôt l'alouette chanter. Et maintenant, c'est la coda, la conclusion. Voilà, nous avons une transition et on reprend le thème A, le thème du début, le thème le plus connu. Alors, ce thème est repris en entier, plus amplifié. La valse va se conclure sur des trilles, des chants d'oiseaux, de la vie partout. D'oiseaux.
C'est maintenant le moment de se quitter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission avec Cécile et Armel pour d'autres contes la musique. Merci Armel.
Merci Fred et merci Cécile. À bientôt.